Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Au Vatican, une période inédite vient de s'ouvrir au lendemain de l'annonce inattendue de sa démission. Benoît XVI reste aux commandes jusqu'au 28 février 20h. Dès le 1er mars, il se retirera dans la prière à Castel Gandolfo, puis dans un petit monastère caché dans l'enceinte du Vatican. C'est une première. À 16 jours de la fin annoncée du pontificat de Benoît XVI, le Vatican aménage les dernières célébrations du pape afin de permettre au plus grand nombre de fidèles et de membres de la Curie romaine d'y participer. Benoît XVI fera ses adieux fidèles place Saint-Pierre à la veille de son départ le 27 février prochain lors de la dernière audience générale. Mais d'ici là, il reste pape et maintient toutes ses activités. La période qui s'annonce est inédite en ce qui concerne des questions de forme et de procédure et des questions législatives. Les normes de la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis seront appliquées et adaptées à cette situation sans précédent. Le directeur du bureau de presse du Saint-Siège a fait le point ce mardi à la mi-journée. Le compte-rendu d'Antonino Gallofaro.
Benoît XVI reste pape jusqu'au 28 février, jour de sa démission. Le père Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Siège, a bien insisté sur ce point. Concrètement, pendant les deux prochaines semaines, tous les engagements du pape sont maintenus. Audience avec les présidents guatémaltèques et roumains, les Angélus le dimanche et les audiences générales les mercredis. Mais tous ces rendez-vous auront une saveur particulière. Ce seront les derniers de Benoît XVI. Surtout la dernière audience générale, le mercredi 27 février. Et comme beaucoup de monde est attendu, prévient le père Lombardi, l'audience devrait se tenir sur la place Saint-Pierre. L'occasion pour Benoît XVI de faire ses adieux. La dernière grande célébration du pape aura par contre lieu mercredi. La messe des cendres devait être célébrée dans l'église Sainte-Sabine à Rome. Elle le sera finalement en la basilique Saint-Pierre, vu, encore une fois, la foule attendue, notamment un grand nombre de cardinaux. Parmi tous ces événements, Benoît XVI n'aura par contre pas le temps de terminer la rédaction de l'encyclique sur la foi, a prévenu le porte-parole du Saint-Siège. La démission est arrivée vite, car le pape a pris en compte le calendrier liturgique et les engagements de l'église. Mais encore, de nombreuses questions restent en suspens vu cette situation inédite. Comment faudra-t-il appeler le pape démissionnaire après le 28 février, par exemple? Le père Lombardi n'a pas su répondre. Ce qui est certain, par contre, c'est que pour l'histoire, celle avec un grand H, il restera Benoît XVI.
Après la surprise générale, c'est l'effervescence qui s'est emparée de Rome. L'annonce de la démission du pape Benoît XVI a fait l'effet d'une bombe. En l'espace de quelques heures, des dizaines de journalistes ont convergé vers la ville éternelle, tandis que dans les rues qui entourent le Vatican, la stupeur initiale a cédé la place à l'émotion, aux interrogations et à la curiosité. Ce mardi, les fidèles étaient plus nombreux à Saint-Pierre. Touristes et pèlerins devaient se frayer un chemin parmi les caméras des télévisions qui ont envahi le quartier et les journalistes qui traquent les prélats de passage pour les interroger. Le cirque médiatique a commencé et devrait durer jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau pape Jean-Baptiste Cocagne.
Un rapide coup d'œil à la place Saint-Pierre ce matin et pas de doute, la presse du monde entier est là. Les abords de la place ont été littéralement pris d'assaut par les caméras, micros et autres camions satellites. Les autres journalistes sont à deux pas dans la salle de presse du Vatican, archi-comble. Obtenir une accréditation n'a d'ailleurs pas été simple pour tout le monde. Rachel Bletchley travaille pour le quotidien anglais le Daily Mirror. Elle a été obligée de rester dehors.
Il y avait de la confusion pour nous avec des difficultés liées à la langue peut-être. Donc là, dehors, on se repose sur nos homologues, des journalistes italiens, pour savoir ce qui se passe à l'intérieur.
Le service de presse du Vatican est débordé devant l'afflux des demandes. Pas facile dans ces conditions donc de faire son travail de journaliste. Emmanuel Renard travaille pour la radio Europe 1. Dès que l'information de la démission du pape est tombée, il a pris le premier avion pour Rome sans plus de préparation.
On est opérationnel à Rome, prêt à travailler. Il est déjà 17h30. Il fait nuit, c'est la fin de l'après-midi, il pleut des cordes. C'est une décision compliquée à gérer pour le Vatican, ce qui fait que beaucoup de portes se ferment. Le peu de contact qu'on a, on s'accroche avec, mais c'est le jeu.
Magali Barthès, journaliste pour LCI, est aussi arrivée hier soir.
C'est ce qu'on attend tous en tant que journaliste, pouvoir vivre un événement pareil. Là, on vient de faire la journaliste qui a compris repris les mots en latin de Benoît XVI hier et qui a fait justement cet urgent qui nous a tous alertés.
Pour tenir et enchaîner les reportages et les directs, chacun ses méthodes. Tristan Dessert, correspondant à Rome pour la chaîne France 24.
Il faut dormir dès qu'on a l'occasion, faire une sieste dès qu'on peut, manger dès qu'on peut, un bon plat de pasta et ça repart.
Avec la fin du pontificat et le conclave à venir, la pression médiatique ne devrait pas vraiment retomber pendant un mois.
Vous l'avez entendu, le Vatican s'attend à une participation record de fidèles aux rendez-vous qui vont jalonner les derniers jours du pontificat de Benoît XVI. Ainsi, mercredi, premier jour de carême, c'est dans la basilique Saint-Pierre que le pape présidera la célébration de la messe et le rite de bénédiction et d'imposition des cendres à partir de 17h. Habituellement, cette liturgie se déroule sur la colline de l'Aventin, dans les basiliques Saint-Anselme et Sainte-Sabine, beaucoup plus petites que la basilique Vatican. Dans la matinée à 10h30, Benoît XVI présidera comme tous les mercredis l'audience générale dans la salle Paul VI au Vatican. Et jeudi à 11h, il s'adressera aux prêtres des paroisses de Rome, dont il est l'évêque jusqu'au 28 février. La semaine prochaine auront lieu les exercices spirituels de carême auxquels participe toute la curie romaine. Pendant cette période, les activités du pape et de ses collaborateurs sont habituellement suspendues. Lundi, un groupe de jeunes s'est retrouvé sur la place Saint-Pierre afin de prier le chapelet pour le pape Benoît XVI. L'émotion était bien présente parmi ces jeunes qui confessaient leur stupeur, mais également leur espérance pour l'avenir de l'Église. Le reportage de Manuela Figi.
Ambiance fébrile et agitée, place Saint-Pierre, dès hier midi. Des dizaines de pèlerins et touristes suivaient la conférence de presse du père Federico Lombardi, retransmise sur les écrans géants de la place. La place Saint-Pierre, où le vent s'est levé, aussi soudain que celui qui souffle sur l'Église et le Vatican depuis l'annonce de Benoît XVI. Ils se sont passés le mot. Une vingtaine de jeunes sont venus prier le chapelet spécialement pour le pape. Toutes les lèvres confessent les mêmes émotions. Choc, incrédulité, incompréhension, un sentiment d'abandon même, nous avoue Antonino.
Alors, initialement, la notizia m'a un peu sconvolta, lasciata un peu così, perché.
Au début, cette nouvelle m'a bouleversé. Je pense qu'un pape, en tant que chef de l'Église, devrait aller jusqu'au bout. Et ensuite, en y pensant plus calmement, je me suis dit qu'ayant connu Jean-Paul II, son prédécesseur, en l'ayant vu souffrir dans sa chair et le voir arriver à la fin à bout de souffle, alors son choix me paraît courageux et juste. Cela ne diminue en rien la figure de Benoît XVI.
Le chapelet commence, il prie, mais les yeux se lèvent machinalement vers les fenêtres des appartements du pape, comme ceux de Cécile, jeune étudiante vivant à Rome. Elle est triste, mais demeure confiante.
Première impression, ça a été un peu une émotion un peu triste, comme si, parce qu'évidemment, on a tous un peu en tête comme si le pape n'était plus là. Mais maintenant, je suis habitée par l'espérance, puisque je pense que, enfin, je sais vraiment que si le pape a pris cette décision, il l'a prise en paix devant le Seigneur, donc il n'y a pas de raison de pas espérer que les grâces surgiront malgré tout ça.
Cécile reviendra demain. Le carême commence mercredi, une excellente occasion, dit-elle, de prier pour l'Église, de s'offrir à l'action de l'Esprit-Saint pour se laisser guider.
Et la plupart des cardinaux présents lors du consistoire ordinaire lundi ne se doutaient pas que Benoît XVI annoncerait sa démission. Notre confrère de la rédaction allemande, Mario Galgano, a recueilli la réaction émouvante du président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, le cardinal Kurt Koch.
C'était une grande surprise, je voudrais dire un choc. Tout le monde était surpris parce que je crois qu'aucune personne n'a attendu cette déclaration. J'espère qu'il ait un peu de repos, ce repos qu'il a souhaité, et tout faire ce qu'il veut. C'est bien clair que son amour pour l'Église et pour la théologie continuera. Dans une autre manière.
Cette démission du pape, on l'a dit, est un fait quasi inédit dans l'histoire moderne de l'Église. Seul un ermite, le pape Célestin V, avait, avant Benoît XVI, pris la décision de renoncer au ministère de Pierre en 1294, il y a plus de 8 siècles, et seulement quelques mois après son élection. Il avait alors évoqué, comme Benoît XVI, des motifs simples à sa démission. L'âge, la maladie, son incompétence face à la curie et le désir de se retirer dans son ermitage. Avant Célestin V, certains papes s'étaient déjà retiré lors de circonstances historiques particulières plus ou moins connues. L'éventualité d'une renonciation avait déjà été évoquée par plusieurs papes au XXe siècle et en dernier lieu par Jean-Paul II lui-même. Le paragraphe 2 de l'article 332 du Code de droit canon de 1983 fixe les règles d'une telle renonciation. Marie Duhamel a interrogé Jean Chéligny, spécialiste de l'histoire religieuse et plus particulièrement de l'Église médiévale ou contemporaine. Il est le fondateur et le directeur de l'Institut de droit et d'histoire canonique d'Aix-en-Provence.
Sur le plan juridique, le pape a la possibilité de démissionner. Hein. C'est prévu au canon 332 du code de droit canonique. S'il arrive que le pontife romain renonce à sa charge, il est requis pour la validité que la renonciation soit faite librement et qu'elle soit dûment manifestée, mais non pas qu'elle soit acceptée par qui que ce soit. Pratiquement, de démission de pape telle que celle que Benoît XVI est en train d'opérer, il n'y en a jamais eu, autant que je me souvienne. Hein. En revanche, des démissions de pape ou des mises à l'écart de pape plus ou moins forcées, il y en a eu plusieurs dans l'histoire. Au début du XIXe siècle, il y a eu la détention de Pie VII en France, à la demande de Napoléon, qu'il avait fait arrêter à Rome par le général Miollis, et transporté en France. Il paraît que Pie XII l'avait envisagé si on l'avait privé de sa liberté, parce que Rome était occupée, le Vatican était entouré, il y avait des sentinelles allemandes un peu partout. Hitler avait bien envisagé, dit-on, de sévir contre lui, mais on l'en a dissuadé, en lui montrant qu'en plus il ouvrirait un front catholique contre lui en Allemagne, ce dont il n'avait pas besoin. Enfin, la démission historiquement la plus claire, c'est celle à la fin du XVe siècle, Célestin V, qui a été un peu poussé par son successeur.
Qu'est-ce qui est à l'origine de la démission de Célestin V? C'est le seul qui a démissionné de manière volontaire.
C'était un homme très, très modeste. Il est entré dans Rome monté sur un âne, n'est-ce pas? Qui s'est toujours trouvé incapable de remplir la tâche pour laquelle il avait été élu. Il avait été élu pour sa sainteté. Mais la sainteté, ça suffit pas pour gouverner l'Église, il s'en est rendu compte. Et par conséquent, il a démissionné. C'est le seul cas d'une démission claire et nette, mais pas absolument gratuite. Il a été un peu poussé à démissionner.
Vous avez dit que celle de Benoît XVI était vraiment particulière dans l'histoire. Pourquoi ?
Une démission comme celle-là, alors qu'il est en poste, qui n'est pas contesté, qu'il n'y a pas de rivalité, qu'il n'y a pas de crise, et la manifestation d'une conscience aiguë de ses devoirs de pape et de son état physique qui, à ses yeux, ne lui permet pas de continuer. D'autres papes qui n'étaient pas en meilleur état ne l'ont pas fait.
Vous avez parlé de Célestin V. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire aussi un parallèle sur l'humilité et la grandeur de la tâche?
Il n'y a aucune comparaison, aucun parallèle entre les deux hommes qui étaient de nature tout à fait différente. Célestin V était un ermite, loin du monde, qui n'avait pas l'usage du monde, tandis que Benoît XVI est l'ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il a exercé pendant plus de 20 ans des responsabilités très importantes à la curie. Et il connaît bien le monde, il y est inséré. Vous savez, à travers l'histoire, la singularité de la fonction pontificale et son autorité n'ont pas cessé de s'affirmer. Aujourd'hui, le pape dispose d'un pouvoir absolu dans l'Église, limité bien sûr par le droit canonique. Hein. Il ne peut pas changer le credo, etc. Enfin, je m'entends.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, après cette démission, il y aura une nouvelle façon, une nouvelle manière d'être pape ?
Je ne crois pas. Pourquoi ? Chaque pape exerce la fonction en fonction de sa formation, de son tempérament, des exigences du moment, etc. Alors là, nous avons affaire à un pape intellectuel de métier, spécialiste de théologie, bon connaisseur de droit canonique. Par conséquent, je dirais, il exerce sa fonction de façon plus juridique, plus pastorale que politique. Par exemple, l'aspect politique du règne de Pie XII est plus marqué que celui de Benoît XVI.
La presse internationale semble avoir été, comme le Vatican, la Curie et l'Église universelle, prise au dépourvu par cette annonce. Le pape choisit de s'effacer, titre en première page le quotidien français La Croix. Le pape se retire, annonce le journal Bild. Toujours en Allemagne, Der Spiegel cite à la une le frère de Benoît XVI. Il a fait ce qu'il pouvait. Une décision digne et désintéressée, commente le journal britannique Times. Le quotidien Le Monde voit dans ce geste grandeur, humilité, modernité. Tandis qu'El País soutient que Joseph Ratzinger a été battu par la corruption et les intrigues. Tous les journaux parlent de moments historiques. Benoît XVI est entré dans l'histoire. Benoît XVI qui a gouverné l'Église en des temps difficiles. Certains commentateurs estiment qu'il n'a pas été soutenu. Le pape, a indiqué le père Lombardi, directeur du bureau de presse du Saint-Siège, connaît les problèmes et les difficultés de la curie romaine et surtout celles de l'Église dans le monde d'aujourd'hui. Il sait que les défis sont nombreux. Je vous propose d'écouter à ce sujet le cardinal Paul Poupard, président émérite du Conseil pontifical de la culture. Il est interrogé par Thomas Chabol.
Dès le début, j'ai pensé que le pape Ratzinger, donc j'ai été le collègue pendant 25 ans avant d'être son collaborateur à la culture dialogue interreligieux, j'ai pensé qu'il était le seul pape, enfin le premier pape des temps modernes, qui était capable de démissionner. Mais nous ne faisons pas dire ce que j'ai pas dit. Je n'avais absolument pas pensé que ça pouvait être hier. Donc je me disais que dans un temps où il aurait donc la conviction qu'il a exprimée en termes parfaitement clairs, la conscience qu'il avait devant Dieu de ne pas pouvoir, comme l'affaiblissement dû à la vieillesse de ses forces de corps et d'esprit, il ne pouvait plus remplir de façon adéquate, c'est le mot donc clé, le ministère de Pierre. Et puis, vous avez lu comme moi son livre d'entretien avec Siwald, il avait répondu de façon nette à la question que oui, si un jour il se trouvait dans cette situation. Donc, c'est sûrement une parfaite cohérence, jointe donc grande lucidité et grand courage.
Est-ce que selon vous, sa proximité avec Jean-Paul II lors de sa maladie a eu un impact sur sa décision?
C'est évident. Donc je me rappelle, les conversations à ce moment-là. C'est-à-dire, nous avons été le témoin de cette fin dramatique du pontificat. Donc bien sûr, nous avons tous été saisis par le témoignage spirituel, mais que bien sûr ça posait des questions sur le gouvernement de l'Église. Enfin voilà, c'est évident.
Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de réunifier la curie autour d'un nouveau pape après une année difficile, Vatilix, les scandales de...
Je crois que vraiment c'est ce qu'il a dit. Vous savez, il ne faut pas chercher ailleurs. Une crise de conscience aiguë de l'impossibilité. Je pense que, si vous voulez, moi, dans les choses qui me paraissent évidentes, c'est que il était préoccupé, donc, ces derniers temps par les JMJ de Rio, et je pense qu'il a pris conscience qu'il ne pouvait pas aller à Rio.
Est-ce que, selon vous, beaucoup d'observateurs, de commentateurs, parlent également d'un signe historique, d'un signal historique, d'un signe d'évolution ?
Moi, je suis sans équivoque. On a beaucoup galvaudé depuis quelque temps le terme extraordinaire et historique, mais s'il y a une circonstance à laquelle il faut l'appliquer, c'est bien celui-là. Nous sommes devant une décision qui a un caractère extraordinaire, qui en fait un événement historique dans l'histoire de l'Église depuis deux millénaires, et qui donc, de toute manière, change les données dans lesquelles, désormais, nous allons continuer.
Après le conclave, après l'élection du nouveau pape, il y aura finalement deux papes, si j'ose dire, au Vatican. Comment ça se passe, selon vous ?
Totalement inédite, et comme vous connaissez, comme je connais Joseph Ratzinger, donc devenu pape, vous pouvez être tranquille sur ça. C'est le cas de dire qu'il ne changera pas sa sobriété, sa discrétion et son humilité.
Est-ce que vous pouvez nous évoquer un souvenir à deux, un fait marquant, quelque chose qui vous rappelle Joseph Ratzinger, Benoît XVI ?
Et je pense que dans l'histoire, avec toutes les qualités qu'il a manifestées, il sera le pape qui donne autant à poser la plus grande exigence, comme il a écrit quelque part, que l'homme reçoit sa plénitude, donc s'accomplit parfaitement dans ce dialogue entre la foi et la raison. Et il a cherché à partir de là à consolider, si je puis dire, la foi, bon, l'année de la foi.
Le cardinal Paul Poupard, président émérite du Conseil pontifical de la culture. Deux autres détails avant de refermer cette page. Benoît XVI quittera ses fonctions à 20h le 28 février parce que d'habitude, c'est l'heure à laquelle le Saint-Père finit sa journée normale de travail. Et puis sachez que le monastère Mater Ecclesiae, situé dans les jardins du Vatican où le pape résidera, était jusqu'ici destiné à des religieuses venues y séjourner et prier pour le pape et l'Église. Il a été voulu par Jean-Paul II, construit en 1992, et il est actuellement en cours de réfection tous les 5 ans. Un ordre différent s'y est installé et plus personne n'y réside actuellement. Je signale avant de terminer cette émission que le paiement par carte bancaire est de nouveau possible à l'intérieur de la Cité du Vatican. Il avait été suspendu il y a un peu plus de 6 semaines en raison d'une décision de la Banque d'Italie. Ce service est désormais fourni par une société suisse. Une bonne nouvelle pour les pèlerins et les touristes. Ils pourront ainsi payer leurs billets d'entrée au musée, leurs souvenirs et leurs livres sans numéraire, facilement et rapidement. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur Facebook.